Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
En ce vendredi, alors que le week-end approche à grands pas, au menu de ce jour, votre émission Vivante Église Cinéma pour vous donner des idées de sortie. Comme fil rouge de ces trois films de ce mois-ci, l'intelligence, cette faculté de l'homme, siège selon la tradition chrétienne de la charité, car c'est bien d'intelligence du cœur et de grandeur d'âme qu'il s'agit dès que l'on évoque ce géant de l'histoire française du XXe siècle qui se dessine derrière le film De Gaulle de Gabriel Le Baumin pour le film à l'affiche du mois. C'est bien également l'intelligence qui fait que le héros du film Les Neiges du Kilimandjaro de Robert Guédiguian savent se pencher sur une autre misère que la leur, et c'est toujours l'intelligence qui fait que Guillaume de Baskerville dans Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Haneau ne laisse pas l'obscurantisme religieux triompher dans ce célèbre thriller. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Rendez-vous avec nos deux messieurs cinéma, Louis-Marie Solaire, toujours producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, le mercredi soir, 19h, ça fait quoi 32 ans, Louis-Marie?
Ça va faire 33.
33, voilà.
32 ans et demi, allez.
32 ans et demi, sacré chiffre. Bienvenue à vous, Louis-Marie, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Paul Dima, intervenant cinéma pour les Côtes au Pays, ces centres jésuites dans le sud-ouest. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Alors, le film à l'affiche, puisque c'est le prochain Ciné-Parole, je le rappelle pour ceux qui par hasard tomberaient sur cette émission pour la première fois, on espère qu'à chaque fois on a des nouveaux, bienvenue à eux. Ciné-Parole, c'est donc un ciné-club qui est organisé à Toulouse, mais mon petit doigt, enfin vous m'aviez dit que vous lanciez la perche pour éventuellement d'autres lieux ailleurs dans la région. Ce Ciné-Parole, c'est donc au cinéma L'ABC, cinéma d'art et d'essai, et c'est mardi prochain pour De Gaulle. Donc on va voir le film et puis après on en parle avec vous, deux séances, 14h30 et 20h30. On va commencer par écouter la bande-annonce de ce film, donc de Gabriel Le Baumin, et puis évidemment on en parle.
Il est l'heure, sans honte et sans déshonneur, de reconnaître notre défaite.
Et que proposez-vous, monsieur le maréchal ?
On doit s'entendre avec l'Allemagne et rebâtir la France sur des bases nouvelles.
Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition.
Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons.
En langage militaire, ça s'appelle une désertion.
Je ne vous permets pas, De Gaulle !
Quoi que nous fassions, cette guerre sera mondiale. Décidons de continuer le combat ailleurs.
Ces heures douloureuses, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
Personne ne veut résister à la disparition de la France.
Je retourne cet après-midi à Londres pour tenter d'arracher le soutien de Churchill.
Not a chance. We must build up our own forces.
On ne peut pas prendre de risque plus longtemps. Il faut quitter la maison.
Charles, mon grand amour, je ne sais pas où tu es. Et je ne sais pas où je vais. Je suis dans la situation d'une mère qui doit protéger ses enfants et qui va pourtant prendre le risque de les entraîner vers la mort.
Je suis surtout un homme qui a tout quitté, son pays, ses fonctions, et qui a laissé sa famille dans un pays à feu et à sang.
Sachez que vous risquez d'être inquiété à tout moment.
On parle de condamnation.
Vous êtes dégradé et déchu de la nationalité française.
Tu n'as pas le choix, tu dois continuer.
Les mots, ce sont les seules armes qui me restent.
Ça, c'est la bande-annonce donc, de De Gaulle, de Gabriel Le Baumin. Je pense que l'intrigue, on l'a en partie entrevue, mais si on doit la préciser, donc, le film choisit de se concentrer sur une courte période, c'est de juin 1940. Voilà, la France est en guerre. Aujourd'hui, on peut le dire, pardon, pour ceux qui ont connu cette époque, ça reste toujours douloureux pour une certaine génération, c'est quand même la débandade. Les Allemands sont bientôt à Paris, et puis donc, le général De Gaulle, fraîchement donc, promu général, lui essaye d'infléchir ou veut infléchir le cours de l'histoire, il refuse la défaite. Pour l'histoire, qu'est-ce que vous rajouteriez avant peut-être qu'on évoque le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de films, si je ne me trompe pas, sur De Gaulle. Pour l'histoire, allez, Paul Dima, pour une fois.
Oui, d'ailleurs, c'est un peu propre à la France. Les Anglais ont été beaucoup plus réactifs. Ils ont fait des films sur Winston Churchill. De Gaulle, c'était un monument qui faisait un peu peur et qui était un petit peu sacralisé, voire sacré. Et bon, faire un film sur De Gaulle, c'était une œuvre complexe. Alors là, c'est pas un film sur De Gaulle, c'est un film sur une période très brève. Ce n'est pas un biopic, une histoire de Gaulle. C'est sa révolte au moment où la France, comme vous le disiez, capitule.
C'est aussi une période moins connue.
Alors, c'est une période moins connue et ça fait quand même 80 ans maintenant. Donc, on est peu, il y a sans doute peu d'auditeurs qui ont été des témoins directs de cet événement-là. Et si tout le monde a retenu, on a retenu dans le savoir collectif, c'est pas seulement l'inconscient, l'appel du 18 juin, peut-être qu'on ne connaît pas bien les quelques semaines qui ont précédé cet appel et dans quel contexte ça s'est passé. Et c'est ce que le film met en valeur.
Louis-Marie Soler, vous qui êtes le plus cinéphile d'entre nous, il y a eu d'autres films sur De Gaulle ou pas ?
Sur De Gaulle, non. Il y a eu des téléfilms, oui, sur De Gaulle. Il y en a eu quelques-uns, au moins trois. Patrick Chesnais incarnait le général De Gaulle, entre autres. C'est vrai que, comme le disait justement Paul Dima, la France et les Français, les réalisateurs français, les producteurs aussi, sont un peu frileux. C'est un personnage historique. il est difficilement déboulonnable de son piédestal et on peine à le représenter tant sa silhouette était particulière.
Il avait aussi un physique très particulier.
Son phrasé aussi. Rappelez-vous que Jean-Pierre Melville dans L'Armée des Ombres ne le montre que de dos. C'est le seul moment où on voit apparaître le général de Gaulle dans ce film fameux. On le voit peu et de dos. Donc c'est vrai que c'est compliqué de le mettre en scène et surtout pour l'acteur de l'interpréter. C'est un rôle, passez-moi l'expression, plutôt casse-gueule.
Alors, quelques critiques. Lacroix, l'intelligence de ce film repose sur l'équilibre entre la pertinence et l'acuité de ce stratège, la force de sa volonté et la fragilité de cet homme inflexible. Le Figaro, il faut en passer par quelques conventions, mais c'est du bon romanesque historique, à la fois solidement documenté et vivant, humain, mouvementé. Le Monde, oui, De Gaulle est fictio. Nisable, je ne savais pas que ça existait, et interprétable à deux conditions ici réunies, que le scénario recadre sa légende et que son interprète ne se prenne pas pour lui. Pour le coup, même si je n'ai pas vu le film, j'ai trouvé que la remarque était fine. Alors, est-ce qu'il y a... J'ai cru comprendre, même si je ne l'ai pas vu, qu'il y avait deux choses. À la fois, on voit, le grand homme qui se dresse, tout d'un coup, qui dit non et qui commence à dessiner une autre histoire. Et puis, l'intimité de cet homme... Et un autre visage, c'est des choses qu'on pouvait lire dans les critiques, d'Yvonne de Gaulle qui est parfois a été un peu présenté comme ça date un peu, comme la même ère de monsieur.
C'est comme ça que les Français l'appelaient d'ailleurs, Tante Yvonne.
Oui. Tante Yvonne.
Elle est restée pour les Français, Tante
Yvonne. Elle a été jeune et amoureuse, et vice-versa.
Oui, dans l'image populaire, c'est elle s'occupe du quotidien, comme disait le général de Gaulle, écrasée. Et en fait, dans le film, et je crois que ça correspond à l'histoire, c'est un personnage qui avait du tempérament. Il en fallait sans doute pour revivre avec cet homme-là, et qui en même temps savait être à sa place. Mais on la voit, on voit dans le film un lien très fort, et c'est un De Gaulle intime, en même temps que le grand homme qui prend des décisions qui vont changer le cours de l'histoire. Elle a une place importante. Il y a aussi un autre personnage dans le film réel, c'est leur fille Anne, qui était...
Une enfant trisomique. Porteur de la trisomie 21.
Et à l'époque... On enfermait ses enfants dans des institutions. Et le choix du couple de Gaulle a été de la garder avec eux, tout le temps.
Oui, pour la petite histoire, elle est morte dans leurs bras, elle avait une vingtaine d'années.
Oui.
Est-ce qu'il y a donc deux histoires à l'intérieur du film
deux
aspects de la personnalité de De Gaulle.
Gabriel Le Bobin met en parallèle le privé et la petite et la grande histoire. Et il a décidé de montrer ce qu'était le général De Gaulle dans l'intimité de son couple et de sa famille. Dans l'intimité du couple, parce qu'il commence par une scène, quand même, le film commence. Alors, c'est pas à l'est, hein, mais en tout cas, on voit un moment tendre. On peut même penser qu'ils vont jusqu'à faire l'amour, d'ailleurs, au début du film. C'est évoqué. On voit le général de Gaulle, en fait, De Gaulle et sa femme, Yvonne, et on voit combien ils étaient amoureux l'un de l'autre. Et après, il y a une autre belle scène. peut-être un peu facile, mais une belle scène aussi de famille, un repas de famille, où on voit ostensiblement De Gaulle qui s'est un peu écarté de la table, et on a ses yeux, et on voit comment, à travers la caméra de Le Beaumain, il voit sa famille, sa femme et ses enfants. Il a un regard tendre, il a un regard amoureux pour sa femme et tendre pour chacun de ses enfants. Les deux aînés étant déjà grands, hein, puisque Philippe va passer le concours pour entrer à Naval.
Il a 20 ans. Oui.
Et sa sœur plus jeune, elle, passe le bachot. Oui.
Alors je vous propose, on va entendre juste un tout petit peu la voix du général de Gaulle. C'est le début de l'appel du 18 juin.
Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées.
Voilà, c'est un monde, hein, tout d'un coup, qui s'ouvre. C'est vraiment une autre époque, c'est probablement bien loin pour une certaine génération, mais même si on l'a pas connu, ça fait toujours quand même quelque chose d'entendre cet appel du 18 juin. Qu'est-ce que vous voudriez rajouter? Pourquoi est-ce que c'est un bon film? Je sais pas, est-ce qu'il y a des acteurs qui s'illustrent? J'ai cru comprendre qu'Isabelle Huppert était très bien choisie.
Isabelle Carré,
excusez-moi.
Très bien, elle est très bien choisie et elle n'est pas la seule. Olivier Gourmet est parfait dans le rôle du président Reynaud, comme Philippe Laudenbach en Pétain. C'est assez stupéfiant. C'est assez éclairant d'un point de vue historique sur la position de Pétain, qui était franchement un adversaire de la République. On comprend mieux pourquoi il a voulu tout de suite capituler face aux Allemands. C'était quelque chose qui le crisper la République grandement, et c'était une façon de prendre le pouvoir, ça c'est incontestable. Et puis il y a aussi le jeu politique, et on c'est très éclairant, là on l'a vu, lui par contre, comme le disait Paul Dima, dans beaucoup de films, Winston Churchill, qui était un fin politique.
Bien joué aussi.
Ah, il est remarquable. Et qui, on voit bien que, ouais, il veut bien aider De Gaulle, mais avant tout, c'est l'Angleterre, c'est la Grande-Bretagne qui importe, et ce sur quoi il insiste beaucoup, après tout, que les Français capitulent, ben tant pis, mais surtout que leurs armes, et en particulier la flotte, ne tombent pas aux mains des Allemands, parce qu'il ne faut pas oublier que la Grande-Bretagne est une île, et avec, s'ils avaient eu les bâtiments, la flotte française, ils risquaient gros, là, les Anglais.
C'est certain, un grand passage de la Seconde Guerre mondiale, toujours pas digéré parfois par une certaine génération. Paul Dima, pourquoi est-ce que c'est un beau film ?
Ce qui est intéressant aussi dans ce film, on voit que c'est la rencontre aussi de deux grands hommes, de deux grandes forte personnalité, celle de Gaulle et celle de Churchill. Et il y avait une reconnaissance réciproque en même temps qu'une certaine distance, et c'est représenté dans une scène qui est historiquement vraie, le déjeuner entre Churchill, Premier ministre, et De Gaulle, qui est un général qui n'a rien. Et Churchill lui dit au cours du repas, vous êtes un fou ou un imbécile. Il dit, ben, je suis un général qui n'a pas de moyens, pas d'armes, pas d'armée, pas de... Voilà, il dit, ben, vous êtes un fou. Mais en même temps, c'est ce qui emporte, quand il voit la détermination de cet homme, de Gaulle, il dit, ok, j'y vais. Il va plaider la requête de Gaulle. Ce qui est intéressant aussi dans ce film, et je crois que ça c'est fidèle au personnage de Gaulle de cette époque-là, c'était un officier militaire qui a été plusieurs fois prisonnier, qui a toujours rêvé de s'évader quand il a pu le faire, et parce que pour lui c'était le déshonneur suprême d'un officier français. Et on voit la place de la grandeur de la France pour cet homme-là, de sa grandeur personnelle aussi, c'est-à-dire qu'il doit servir la France, et il part tout seul un peu au combat pour quelque chose qui était un peu insensé.
Et il laisse femme et enfant
Alors il laisse femme et enfant, et sans qu'il le sache, sa femme va prendre un des derniers bateaux pour rejoindre l'Angleterre, mais il n'en sait rien. Et elle non plus, elle croit qu'il est en Afrique du Nord à ce moment-là, à Alger. Et donc, bah, il se retrouve après l'annonce du 18 juin, puisqu'il paraît dans la presse et son enfant découvre
Oui, parce qu'ils sont bloqués par les forces britanniques, puisqu'ils viennent de débarquer en Grande-Bretagne, la famille, Yvonne et ses enfants, et ils doivent rester là, parce qu'on ne sait pas trop encore ce qu'on va faire d'eux. Oui. Tous ceux qui étaient sur ce bateau, d'ailleurs.
Oui. Dans votre invitation, donc, à rejoindre ce Ciné-Parole, le cinéma L'ABC, donc mardi prochain, deux séances, 14h30, 20h30, vous dites la chose suivante. Dans son livre « Mémoire d'espoir », le général de Gaulle adresse une dédicace donc, à Yvonne de Gaulle en disant « Pour vous, Yvonne, sans qui rien ne se serait fait ». De Gaulle, donc de Gabriel Lebeaumin, c'est donc le film à l'affiche et à voir à l'occasion de ce Ciné-Parole avec vous. On fait une première pause musicale, l'extrait musical.
Bah, c'est Pascal Danel, Les neiges du Kilimandjaro, vous allez comprendre très vite pourquoi.
Il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit là-bas dans le lointain les neiges du Kilimandjaro. Elles te feront qu'il aimait. Il s'en allait main dans la main. Il la revoit quand elle riait. Elle te fera si blanche. Les neiges du Kilimandjaro.
Présence. Vivante Église. Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin avec donc nos deux messieurs cinéma, Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse le mercredi sur Radio Présence de 19h à 20h et Paul Dima intervenant cinéma pour les Cotopaïs et centres jésuites dans le sud-ouest. Deuxième film à l'affiche de cette émission, donc notre chef-d'œuvre spirituel du mois, puisque ce sont nos catégories, chef-d'œuvre humaniste, pardon, du mois, puisque ce sont nos catégories, celles qu'on a choisies. Donc Les neiges du Kilimandjaro. Alors, Les neiges du Kilimandjaro, c'est donc un film de Robert Guédiguian. C'est l'histoire de Michel. Michel habite à Marseille. Il travaille donc pour le port de Marseille. Il y a un plan de licenciement. En tout cas, il y a des difficultés économiques qui sont traversées. Donc, sont tirées au sort un certain nombre de personnes pour se porter un avortement volontaire. Bref, pour être désignés comme ceux qui doivent partir, qui font partie de la charrette, comme on dit. Michel est syndicaliste, engagé à gauche, lecteur de Jean Jaurès, époux donc de Marie-Claire. Ils s'aiment. Ils sont comblés, ils ont des enfants, des petits-enfants, et même s'il doit partir plus tôt que prévu à la retraite, ça n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça. Et tout bascule quand ils se font braquer, donc une nuit, alors qu'ils sont chez des copains en train de jouer aux cartes. On va écouter la bande-annonce, et puis on va évidemment en parler.
Louis Toledano. Roger Barbaro. Omar Zemmoun.
C'était pas triché en tant que représentant syndical. Rien ne t'obligeait à être sur la liste.
Ça aurait été un privilège et je n'en veux pas.
Il n'est pas à la retraite, il est au chômage.
Enfin, il va encore trouver le boulot, là, maman.
Mais qu'est-ce que t'en sais ?
Ça va, il faut arrêter de se voir la face.
Mais qu'est-ce que c'est encore ça ?
Au fond du coffre.
Vous avez un guide pour tous les deux pendant une semaine.
Dans le pays des Maasai ?
C'est au pied du Kilimandjaro.
Bougez pas, fermez vos gueules, assis, toi.
Okay. Des gens comme vous, ça doit avoir des cartes de crédit, non ?
Le code, vite ! Le code ! Il est où, le pognon ?
Quel argent ?
L'argent du voyage, tu vois bien quand c'est tout ! Il est où ?
J'ai envie de le tuer, cet enfoiré. Je veux qu'il prenne le maximum.
Avec les deux gamins ?
Avec la veste bleue.
Ok, les gars, le suspect a été repéré en direction du bus 37 avec deux gamins.
Mais c'est un ouvrier comme nous.
Comme nous ? Parce que tu as déjà vandalisé des gens, toi ?
Mais je m'en fous qu'il soit puni ou non. Moi, ce que je veux, c'est comprendre. Je pourrais aller mieux quand je saurai ce qui s'est passé.
Là-bas, dans le lointain.
Raoul !
Les neiges du Kilimandjaro.
Voilà, Les neiges du Kilimandjaro, donc de Robert Guédiguian. Allez, Louis-Marie Soler. Y a peut-être pas grand-chose à raconter de l'histoire, à moins qu'on la déflore. Si, il faut quand même dire un peu plus. Allez, allez-y.
Bah, de toute façon, on en comprend bien vite l'aboutissement, oui, et le sens. Oui. C'est-à-dire qu'on l'a entendu dans la bande-annonce, quand ils se font braquer, ils veulent les cartes de crédit, les braqueurs, mais ils disent le fric du voyage, c'est que c'était leur anniversaire
de mariage,
oui. Et la famille et les amis ont offert donc au couple d'Aroussin Ascaride, en fait,
et les collègues,
un voyage en Afrique au pied du Kilimandjaro, ce qui explique le titre du film, et puis aussi le fait que c'est le tube qu'on entend là, et qu'on a entendu de Pascal Danel, qui exprime aussi un idéal qui n'atteindront jamais à cause de leurs conditions ouvrières et leurs conditions sociales.
Alors la bascule, c'est donc en fait un des deux agresseurs était un collègue donc de Michel
qui avait été tiré au sort.
C'est un jeune des cités de Marseille qui a la rage et voilà, il le découvre et en fait c'est du coup un peu le chemin de ce couple qui fait autre chose que de se braquer et de vouloir sa peau. Paul Dimain.
C'est une rencontre tout à fait surprenante parce que, au hasard d'un voyage en bus, il voit les deux jeunes frères du voleur qu'il n'a pas encore identifié pour l'instant. Il reconnaît à cause d'une bande dessinée qui lui appartenait que c'est en rapport avec le voleur. Et donc, voilà, le voleur est identifié, arrêté, et là, il découvre que c'est un ex-collègue. Et alors, c'est un monde qui s'écroule un peu pour lui, parce que ça trahit toute sa rectitude d'ouvrier, militant, défenseur de ses collègues et tout. Et l'un des siens, ou l'un des leurs, trahit, vole le cadeau qu'on leur avait offert. Et il y a un retour entre...
Et le remet en cause.
Et le remet complètement en cause, parce qu'il se dit, et tout ce qu'on a fait, alors ça tombe à l'eau, c'est plus rien. Son beau-frère, qui travaille dans la même entreprise,
qui faisait pas partie de la charrette.
Et fait pas partie de la charrette, et on l'entend dans la bande-annonce, dit, parce que c'est Michel qui retirait les papiers du chapeau, il a retiré le sien. Il dit, mais t'aurais pu passer à côté, en plus t'étais délégué syndical, tu pouvais échapper à ça. Il dit, mais ça aurait pas été juste. Donc il accepte de faire partie de la charrette. Et puis en même temps, il reconnaît que des jeunes vivent sur tout à fait d'autres repères éthiques et sociaux. Et puis en fait, il va découvrir pourquoi ce jeune a volé. C'est qu'il est chef de famille. La maman, pour des raisons multiples, et qu'on va réussir à comprendre aussi, eh bien, elle est partie avec un autre homme. Et
il fait vivre ses deux frères qui sont
abandonnés. Il s'occupe de ses deux frères. Et alors, ce film est inspiré d'un poème de Victor Hugo, Des pauvres gens. Il aurait dû peut-être s'appeler Pauvres gens, mais bon, c'était pas moteur comme titre de film, et ça s'est appelé Les neiges du Kilimandjaro.
On va écouter un deuxième extrait, hein, ça va nous mettre un peu plus dans l'ambiance. C'est donc Michel et Marie-Claire qui discutent.
Bonjour les inconnus.
Tu me parles?
Non, rien.
Qu'est-ce que tu dis?
Je me demandais qu'est-ce qu'on aurait pensé de nous, assis là, comme ça, sur une terrasse, en train de boire un coup au soleil couchant.
Qui ça?
Nous. On aurait pensé quoi de nous? Hein? Tu t'imagines, 30 ans en arrière, passer dans la ruelle, lever la tête, et voir deux quinquagénaires, l'air paisible, en train de siroter, de cracher leur noyau par-dessus la balustrade. Qu'est-ce qu'on se serait dit à propos d'eux?
On les aurait traités de petits bourgeois.
On est des bourgeois. On va à la mer tous les dimanches. On est propriétaires. On regarde la télévision.
On est bourgeois, mais pas trop. Non, moi, je crois qu'on se serait dit... Ils ont l'air heureux. On se serait dit, pour avoir l'air heureux comme ça, ils n'ont jamais dû faire souffrir personne. Ils n'ont jamais dû être indifférents aux autres.
Même en ce moment, on est toujours heureux.
C'était la seule chose à faire, Michel.
Voilà ce beau dialogue de ce couple, donc Michel et Marie-Claire, après que ce jeune ait été arrêté. Et il risque évidemment quelques années de prison, même si le braquage s'est fait avec un pistolet en plastique. Est-ce que vous nous parlez un peu, Louis-Marie Soler, de Robert Guédiguian? C'est donc un réalisateur quand même avec une œuvre, on va dire, engagée. Social, c'est un homme qui a été à gauche, qui a été longtemps engagé au Parti communiste, qui a en 2011 déclaré soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon, et j'ai compris qu'un certain nombre de ses films se passent à Marseille. Bref, c'est une certaine ambiance et certains acteurs à chaque fois.
Mais ça se passe à Marseille parce que c'est là qu'il a grandi, qu'il a vécu, et en particulier à l'Estac, qui reste le quartier de son enfance. Il a commencé à faire du cinéma de façon un peu c'était un peu du bricolage, quoi. On parle beaucoup de la famille de Guédiguian, sa famille d'acteurs. Alors ce noyau dur, Jean-Pierre Darroussin, Ariane Ascaride et Gérard Mélan, qui sont pratiquement dans tous ses films. Ouais. C'est Gérard Mélan qui est dans tous ses films, ouais, sauf un, Le Promeneur du Champ de Mars. Ouais. Il avait pas de rôle pour lui. Mais et donc dans ce film, ils sont là tous les trois, puisque Marie-Claire et Michel sont respectivement, vous l'avez dit, incarnés par Ariane Ascaride et Jean-Pierre Darroussin. Et puis Gérard Mélan, c'est le beau-frère, on entend sa voix. C'est celui qui a l'accident marseillais le plus prononcé. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas perdu. Et vous savez pour quelle raison? Même s'il a fait l'acteur, il n'a jamais laissé son travail d'infirmier. Il était infirmier, Gérard Mélan, et il a été pendant toute sa vie, et il menait de concert sa carrière d'infirmier et sa carrière d'acteur. Tant et si bien que c'est grâce au salaire d'infirmier de Gérard Mélan que Robert Guédiguian a pu tourner les premiers de ses films.
Alors juste sur un cinéma engagé, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus?
Ben justement, c'est cette envie de faire du cinéma en sortant des sentiers battus, en sortant du financement traditionnel des films, qu'il est arrivé à en faire, qu'il est arrivé à se révéler. Il a même créé après sa maison de production. Donc vraiment, sa façon de tourner et sa façon de faire peut crisper certains, mais en tout cas, il a une vraie patte et vraiment des choses à raconter. La notion d'engagement politique, mais pas seulement social, affectif, c'est tout ce qui traverse la filmographie de Robert Guédiguian et son travail.
Le Nouvel Observateur, ce film, est une des réussites majeures de Robert Guédiguian, qui va droit au but et touche à l'os incisif, mordant, fouillant les plaies qu'il a lui-même ouvertes. Télérama, meilleur Guédiguian depuis une petite décennie, Les Neiges du Kilimandjaro est un passionnant film de crise où les repères des héros s'effondrent, mais aussi les catégories sociales décrites par le cinéaste dans toute son œuvre. Puis on pourrait en citer d'autres, ça a vraiment été bien accueilli, il y a eu d'ailleurs pas mal d'entrées. C'est un de ses films qui a fait le plus d'entrées. Derrière Marius et Jeannette, vous n'avez pas dit, mais c'était, oui, c'était, oui, son film, 1997.
Ce qui est intéressant aussi dans l'histoire, c'est qu'il n'y a pas seulement une remise en cause, mais il y a une espèce de conversion qui se passe chez les personnages principaux. C'est-à-dire que quand ils découvrent la situation de leur voleur, il essaie de revenir sur sa plainte, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que le jeune est embarqué pour plusieurs années en prison, sans doute peu compte tenu des circonstances. Mais à ce moment-là, la femme, de son côté, va voir les enfants, et découvre la situation et prend soin d'eux. Et puis, un moment après, sans en dire quoi que ce soit à sa femme, lui aussi va voir, il découvre la situation, il se retrouve sur la plage, alors c'est un petit peu téléphoné.
Dites pas la fin quand même.
Et c'est très beau parce qu'il découvre là que Bézan a eu tous les deux le même projet, on peut pas...
Ils se sont battus pour la même chose toute leur vie.
On peut pas laisser tomber, et ils sont à ce moment-là, en butte un petit peu avec leurs enfants, qui disent, bah, vous allez pas quand même en plus les prendre, nous, quoi. Donc... Voilà, il y a le monde a changé et eux, ils restent fidèles à cette espèce de bienveillance pour les plus petits et pas simplement d'idées, mais à se mettre les mains dans le cambouis.
Et ce qui les secoue quand même, c'est que justement, il y a la transmission, mais qu'en est-il advenu de cette transmission ? Voilà, ils ont élevé leurs enfants dans les mêmes idées, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Qu'est-ce qu'ils vont en faire maintenant ? Parce que c'est la lutte leur appartient. Et ils sont face à quelque chose qui est quand même difficile et délicat à vivre.
Alors pourquoi c'est un très beau film ? Donc on a compris, c'est donc un amour qui est fidèle à ses idéaux de jeunesse.
Une dignité des êtres humains. Enfin, une capacité d'empathie, de compassion, mais de réelle prise en charge, quoi. C'est-à-dire, c'est un monde de solidarité et ils sont pas du côté des nantis, même s'ils se disent on est devenus des bourgeois, mais elle dit oui, enfin, pas tout à fait. Les gens vont penser de nous que, ils sont occupés des autres
et qu'on est heureux.
Et qu'on est heureux.
Les Neiges du Kilimandjaro de Robert Guédiguian, c'était donc le chef-d'œuvre humaniste du mois. C'est un très beau film. On va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver après. On va parler du Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano. Et c'est donc la musique, une des musiques de ce film que l'on va entendre pour l'introduire.
Vive Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, en tout cas le titre, puisque le thème c'est le cinéma. Avec nous Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, émission de cinéma mercredi 19h-20h, à écouter Paul Dima, intervenant cinéma pour les Côtes au Pays et Centres Jésuites dans le Sud-Ouest. Heureux de leur faire un peu de publicité. Troisième film donc à l'affiche de cette émission Vivante Église, Le Nom de la Rose. Probablement qu'un certain nombre d'auditeurs l'ont vu. Ce film de Jean-Jacques Hano, j'ai pas le nombre d'entrées, mais je crois que ça a été un gros succès.
Il a passé les 5 millions.
5 millions quand même. Hein.
En France. Hein.
Voilà. Film de Jean-Jacques Hano. Alors on va écouter ce qui ressemble à un début de bande-annonce, parce que c'est un film dans lequel il y a de très belles images et parfois des longs silences, comme cette musique pouvait le laisser entendre, cette deuxième pause musicale. On écoute en tout cas au moins cet extrait pour nous mettre dans l'ambiance de ce film.
Arrivé au terme de ma vie de pauvre pêcheur, désormais chenu et vieilli comme le monde, je m'apprête à laisser sur ce parchemin témoignage des faits admirables et terribles auxquels j'ai assisté dans ma jeunesse. Vers la fin de l'année du Seigneur 1327. Ah, que Dieu m'accorde la sagesse et la grâce d'être le témoin transparent des événements qui survinrent dans une abbaye isolée au plus sombre du nord de l'Italie. Une abbaye dont même aujourd'hui il semble pieux et charitable de taire le nom.
Donc ça plante le décor et la musique y fait beaucoup. Hein. J'espère que vous nous parlerez de la musique parce que c'est vrai qu'elle est quand même... quand on l'entend toute seule, on s'en rend d'autant plus compte. L'histoire, c'est donc l'histoire d'un moine, Guillaume de Baskerville, un moine franciscain, qui est accompagné d'un jeune disciple, Atso. Atso est le narrateur, là on l'entendait lorsqu'il était très vieux, et donc il dit qu'il va raconter cette histoire. C'est donc au XIVe siècle, 1327, c'est daté. On fera un petit point sur, on va dire, le contexte ecclésial et autres. Bref, en tout cas, on est au Moyen-Âge, et les images ne trompent pas. Guillaume de Baskerville arrive dans un monastère où doivent se rencontrer donc des légats du pape chez les bénédictins, puisque c'est un monastère bénédictin, pour une rencontre entre les légats du pape et les franciscains. C'est l'époque des franciscains qui secouent un peu l'église. Mais voilà, un des moines bénédictins a été retrouvé mort. On pense au début au suicide, et puis un mort, un deuxième, un troisième. Et l'intrigue se noue et Guillaume de Baskerville va se transformer en enquêteur. Louis-Marie Seller, qu'est-ce que vous ajouteriez ?
La référence qu'a choisi Jean-Jacques Hano est claire. C'est le contexte historique est très important, mais évidemment c'était un clin d'œil forcené à Conan Doyle, puisqu'il s'appelle Guillaume de Baskerville, son personnage principal. Et puis, il y a le novice qui est à côté, Atso, qui sera le Watson de l'enquêteur. Quoi. C'est exactement ça. Et puis, à noter quand même que Jean-Jacques Hano prévient dès le début du film, dans le générique, il dit que son film, alors il utilise un gros mot, on va l'utiliser aussi, le palimpseste du roman d'Umberto Eco. Un palimpseste, c'est, vous savez, un parchemin qui avait déjà été utilisé et qu'on réutilisait pour écrire. C'est-à-dire qu'on avait tellement besoin de papier, c'était tellement difficile à avoir, que quand les textes s'étaient effacés d'un parchemin, ben on le réutilisait pour écrire. Donc ça veut dire qu'Hano a fait une interprétation du livre d'Umberto Eco.
D'ailleurs, un best-seller mondial, le livre d'Umberto Eco.
Mais il ne s'en est pas plaint non plus, d'ailleurs. Hein.
Non.
Umberto Eco a totalement accepté la vision d'Hano. De son livre.
Et il a accompagné, il a suivi la réalisation du film à partir de son livre. Il était en accord avec ce qui était fait comme interprétation.
Alors avant qu'on parle du réalisateur un petit peu plus et qu'on parle peut-être de la musique, les images. C'est un film qui a coûté un certain prix. Les images, c'est vrai qu'elles sont incroyables. Probablement les décors aussi. Bon, en tout cas, on s'en rend pas compte quand on voit le film. Et puis, des gueules absolument incroyables. Vous le disiez au début de l'émission, on se croirait dans des des tableaux de la peinture flamande de Bruegel. Ouais.
C'est les images de Notre-Dame de Paris aussi.
Ah ouais.
En tout cas, celles qu'on a même
dans
données au cinéma.
Du Moyen-Âge.
Ouais. Le personnage difforme, le bossu, la jeune fille, les paysans rustres, les copistes qui sont penchés sur leur travail, tout y est.
Ça fait pas de la pub pour les ordres monastiques. Hein. Ça,
ah non.
Ça suinte la névrose et l'angoisse quand même. C'est...
Oui, et la présence du diable.
Bah oui. Ouais. Et puis il fait froid en plus dans cette abbaye, on a tout le temps froid.
On peut imaginer qu'il faisait froid. Hein,
ah non, mais on est dans la montagne, et c'est l'hiver, est... donc voilà. Il n'y a rien pour arranger. Oui.
Il n'y avait pas de chauffage électrique à l'époque, ni le fuel. Toujours peut-être sur l'intrigue un petit peu plus, il y a derrière ce qu'Umberto Eco chérissait, avec tout ce que ça symbolise, une histoire de livres.
Ah oui, alors
et de bibliothèques.
Le pouvoir... du grimoire qui contiendrait tout le mystère du monde. Et alors, là, c'est fantastique, parce que ceux qui s'approchent de ce livre-là en meurent. Mais ce livre reste introuvable. Et introuvable aussi, la raison pour laquelle il meurt. Alors, il y a forcément du diabolique.
Même la bibliothèque est introuvable,
même
presque.
Même là-dedans, voilà. Mais la bibliothèque est un labyrinthe, ouvre sur un labyrinthe, dont on ne peut pas sortir à un moment. Voilà, donc c'est extrêmement angoissant. Et donc, tout ça, c'est diabolique. Et alors, forcément, qui dit au Moyen-Âge diabolique, à cette période-là...
C'est pas bon, ça.
Inquisition. Dit envoi du légat du pape. Et alors, il y a des controverses superbes, enfin, où on juge. Et on juge aussi, alors, si l'Inquisition a commencé par... une disputatio au sens noble et universitaire du terme, de débat, de...
Avec Saint-Dominique, en l'occurrence.
Voilà. Après, ça a quand même complètement dérapé. Cette inquisition-là, ce personnage historique, a quand même soumis à la question, et la question, c'était pas simplement des idées en l'air, près de 900 personnes, dont 42 sont mortes à la suite de l'interrogatoire. Donc,
oui, parce qu'on se contentait pas, vous le savez, de poser les questions.
Non.
On forçait les réponses un peu.
Un peu.
On va écouter un deuxième passage. C'est une conversation un peu musclée entre Guillaume de Baskerville, ce moine franciscain, qui se balade toujours presque avec un petit sourire au coin des lèvres.
Il se la joue un peu.
Joué par Sean Connery, très intelligent.
Il est très intelligent.
Il le sait.
Et un peu prétentieux.
Mais il a aussi, il se sert de sa raison.
Oui.
Et c'est une des clés aussi de lecture de ce film, un moment donc où le Moyen-Âge va basculer dans la Renaissance.
Oui.
On écoute cette conversation entre Guillaume de Baskerville et un des vieux moines, ils sont au scriptorium.
Peut-être nous permettriez-vous d'examiner le travail des deux infortunés qui ont été si douloureusement rappelés à Dieu.
Votre requête est bien inhabituelle.
Les circonstances de leur mort le sont tout autant. Il avait un vrai don pour l'irrévérence et les images de comédie.
J'ai entendu rire et j'ai rappelé un des principes de notre règle. Certes, vous, franciscains, vous venez d'un ordre où la gaieté la plus inopportune est vue avec indulgence.
Oui, c'est vrai. Saint-François, parfois, ne répugnait pas à rire.
Le rire est un souffle diabolique qui déforme les linéaments du visage et fait ressembler l'homme au singe.
Mais le singe ne rit pas. Le rire est le propre de l'homme.
Comme le péché.
Pourtant, Aristote a consacré son second tome de la poétique à la comédie. Et il en fait un instrument de vérité.
Vous avez lu cet ouvrage ?
Non, bien sûr que non. Ce manuscrit a été perdu il y a des siècles.
Non, c'est une erreur. Il n'a jamais été écrit. Parce que la Providence ne tolère pas... que l'on glorifie des futilités.
Non, là, je ne suis absolument
assez
pas...
Voilà, conversation musclée, on l'avait dit. Paul Dima, quel est le contexte ecclésial, puisque Umberto Eco, donc, je crois qu'il était un grand érudit, j'en suis sûr, et en général, c'était des romans, mais enfin, il y avait toujours une base historique très solide. Quel est le contexte ecclésial, un peu, contexte ecclésial et autres de ce film?
Alors, c'est bien rapporté dans le film, c'est-à-dire que derrière l'intrigue policière, on voit bien qu'il y a tout à fait autre chose qui est en jeu, ou qui se joue en arrière-fond. C'est ce qu'on entend dans ce dialogue-là, c'est le rapport au pouvoir de l'Église. Ce livre n'a jamais été écrit. dit le vieux moine, parce qu'il ne veut pas qu'il soit connu. Et c'est le pouvoir de l'Église qui mettait à l'index ou qui cachait des écrits qui devaient rester secrets. Donc une forme d'obscurantisme et de pouvoir en même temps absolu qui disait « ça c'est bien, il faut le lire, et ça, ça ne doit pas exister parce que c'est trop dangereux ». Le rire, alors la querelle autour du rire, mais le rire dit beaucoup de choses, et dans le dialogue on l'entend bien. Guillaume de Baskerville dit « le rire est le propre de l'homme », et le moine lui répond « c'est ce qu'il fait ressembler au singe ». Et donc le déshumanise. Et il lui répond, mais les singes ne rient pas, et le rire est le propre de l'homme. Donc on sent bien qu'il y a un débat anthropologique, théologique, et aussi politique derrière.
Alors il y a aussi les franciscains, il y a un face-à-face entre les franciscains et les légats du pape, c'est pas tout à fait la même église.
C'est pas vraiment la même église, oui. Voilà. Parce que les franciscains ont remis en cause une forme de pouvoir d'une église qui amassait les richesses, asservissait comme les seigneurs les pauvres, et les abbayes n'ont pas été indemnes de ce genre de pratique non plus. C'est-à-dire qu'elles jouissaient de privilèges.
Elles étaient aussi, on peut imaginer, au service des populations locales, mais pas que.
Aussi, voilà, c'était mais bien. Voilà. Bon. Et on est à une période charnière pour l'Église qui va être affrontée à la sortie du Moyen-Âge, du XIVe siècle, comme vous le disiez tout à l'heure, à la Renaissance, à la place de l'ouverture à une autre réflexion qui fait grâce, enfin qui fait place à l'intelligence de l'homme. Alors que dans le monde précédent, il fallait croire et se soumettre. Là, il faut chercher pour trouver la vérité, qu'on ne trouve pas qui est une recherche permanente. Donc il y a une vérité assénée et une vérité qui est une quête de la vérité.
En tout cas, c'est un franciscain un peu surprenant, Guillaume de Baskerville. Je ne dis pas que les franciscains ne sont pas d'abord des intellectuels, mais celui-là, il ressemble quand même beaucoup à un dominicain. Louis-Marie Soler, Jean-Jacques Haneau.
Jean-Jacques Haneau, c'était quand même son quatrième film, hein, seulement. Mais il avait commencé fort parce qu'il avait réalisé un premier film qui était passé un peu inaperçu, qu'il a ressorti avec un autre titre, c'était Allons Enfants.
Citez-nous plutôt ces grands films, La Guerre du Feu.
Non, mais c'est important parce que Allons Enfants lui a permis quand même d'obtenir. Le titre était devenu noir et blanc en couleur, il a quand même permis d'obtenir l'Oscar du meilleur film étranger. Donc, même pour son premier film, il était fort. Et donc, oui, ses plus grands films sont ceux qui sont venus. Alors, avant Le Nom de la Rose, il y a eu La Guerre du Feu, où on parle du rire également aussi, où on voit comment les hommes préhistoriques apprennent à rire, et qu'ils savent le faire, ils savent se faire des plaisanteries. Et puis après, il y a eu L'Ours, puis L'Amant.
Et vous dites qu'il était fort, mais il n'est pas mort.
Ah non, mais il est toujours, mais oui.
Il était très fort dès le début, c'est quoi
il était fort. Ce que je voulais dire, c'est qu'il avait une certaine vision du cinéma. Il a toujours aimé les choses à grand spectacle.
Certains disent que c'est le Besson, un petit côté Besson du cinéma français, qu'il a toujours été aimé de la critique. C'est ce que j'ai lu, moins cinéphile que vous.
On le comparer à Besson, c'est un peu exagéré. Peut-être le comparer dans le sens où il aime bien les choses qui sont grandes. Il a toujours des fresques. Quand il a tourné L'Ours, c'était assez hallucinant.
Grand spectacle.
C'est du grand spectacle. Il a mis les moyens. Puis plus récemment, il a réalisé un film en Chine avec Le Dernier Loup aussi. C'est pareil. Il faut qu'il y ait des cavalcades de chevaux, des loups qui arrivent, qui poursuivent tous ces animaux. C'est très difficile à tourner. Il aime beaucoup ça. Mais ce que je veux dire par là, en ce moment, on entend moins parler de lui. La dernière chose qui a fait parler de lui, c'était la série qui est passée sur TF1, La Vérité sur Harry Quebert. Je me souviens plus du nom du personnage.
L'affaire Harry Quebert.
L'affaire
Harry Quebert. Diffusée dans 22 pays.
Oui, voilà, qui a très bien marché aussi, qui était une coproduction.
Best-seller de Joël Dicker.
Le Suisse, et qui a le personnage principal, Harry Quebert, est incarné par un acteur que les amoureux de série connaissent bien, puisqu'il est le docteur Mamour dans Grey's Anatomy.
Paul Dima, pourquoi est-ce que c'est un très beau film, Le Nom de la Rose? Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi dans la catégorie chef-d'œuvre spirituel?
Alors,
non seulement parce qu'il traite d'un sujet religieux, ça ne suffit pas pour que ça soit un film spirituel, mais parce qu'il pose bien, alors avec un souffle épique extraordinaire et des tableaux à la Bruegel, on le disait tout à l'heure, des questions assez fondamentales sur qu'est-ce que c'est qu'une quête spirituelle, qu'est-ce que c'est que, comment ça s'accorde avec une vie communautaire, ce qui est le propre des moines, c'est-à-dire la vie de communauté conduit à une vie spirituelle, enfin, et le lieu de la vie spirituelle. Et là, on voit que dans la communauté, ben, il y a des remises en cause importantes et des morts successives qui posent des questions. Est-ce que c'est œuvre du diable ou est-ce que... comment vivre ça ?
Avec une liberté intérieure aussi, dont le jeune Arceau est un peu le témoin. Et
le jeune Arceau, qui est le disciple de l'enquêteur, là, Guillaume de Baskerville, voit comment son maître, il l'appelle son maître, et à la fin, quand il réécrit son histoire, il reste son maître, et faisait appel à son intelligence, à son intuition aussi, il était séduit par ce maître, mais séduit non pas de façon servile et manipulatrice, comme on peut l'entendre de certains créateurs de communautés d'aujourd'hui, hélas, mais comme pense par toi-même. Il s'appuyait sur les philosophes aussi pour construire sa démarche spirituelle. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté le savoir intellectuel et puis la spiritualité qui serait du côté de l'obscurantisme.
Foi et raison.
C'est foi et raison. Voilà. Et ça, c'est très moderne. Et ça va être ce à quoi va être amené et à participer, pas simplement confronté, l'Église à la Renaissance, avec remise en cause du pouvoir tel qu'il était au Moyen-Âge, etc.
Louis-Marie Soler, le mot de la fin, pourquoi est-ce que c'est un grand film ?
Oui, parce que Jean-Jacques Annaud, j'en parlais pas très bien de sa qualité de réalisateur, mais Jean-Jacques Annaud, c'est le grand spécialiste du divertissement cultivé. Et il a su évacuer tout ce qui était trop érudit dans l'œuvre, dans le livre d'Umberto Eco, pour signer ce polar, une série noire médiévale. Mais il garde quand même cette empreinte historique, hein, puisque on a parlé du siècle que l'on dit barbare, mais et avec ses trognes à la Bruegel, mais on voit bien la querelle entre la papauté et les ordres mendiants dont Paul Dima a parlé. Et puis il y a cette tour de Babel aussi avec ses livres, c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, il a voulu ce clin d'œil à José Luis Borges, puisque le moine qui est responsable de l'abbaye s'appelle déjà Jorge de Burgos, donc en hommage au grand littérateur espagnol. Voilà pourquoi tout participe au fait que ce film est vraiment un grand film.
Et ben voilà, j'allais ajouter qu'il y a une très belle scène justement entre Guillaume de Baskerville et puis ce moine Atso, ce jeune moine qui apprend à chercher Dieu et à aimer à l'ombre de cet homme, de ce maître, Guillaume de Baskerville. Et il y a une belle scène qui est une confession, mais c'est une belle image en tout cas de la confession à trouver quand Guillaume de Baskerville lui dit « J'aimerais que d'abord tu me parles comme à un ami ». Trois films à l'affiche donc de cette émission. Le film à l'affiche, c'est donc De Gaulle de Gabriel Lebeaumin. Séance avec Ciné-Parole au cinéma L'ABC à Toulouse. Vous pouvez même faire des kilomètres pour venir et vous accueillerons avec joie. 14h30, 20h30. Le film et après on en parle. Et donc à voir et à revoir. Les Neiges du Kilimandjaro de Robert Guédiguian et Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Annaud. Merci beaucoup messieurs d'être venus au micro de Vivante Église ce matin. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.